Le texte précédent que j'ai lu se passait donc sur l'île du Fintami en compagnie du peuple Firwan. Mais ce peuple n'a pas toujours habité l'île du Fintami. Un bon millénaire auparavant, à la charnière de l'âge du bronze et de l'âge du fer, il habitait sur le continent et ce peuple était aux abois, pourchassé par des ennemis. Si bien que son roi, Leth, a fait le dessein de traverser le détroit, rempli d'îles volcaniques, pour coloniser l'île du Fintami. Et il a reçu pour ça un héritage ancien de son peuple qui était une corne d'unicorne qu'il a fini par enchâsser sur son front. Enfin, cette corne s'est plantée sur son front, d'où son nom de roi cornu. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait ainsi communiquer avec des créatures marines. Et donc il a un jour invoqué les unicornes qui sont apparues, qui se révèlent être une sorte de gros dauphin au dos gris avec une corne sur le front, bref, des narvals. Et donc le roi Leth va partir en reconnaissance pour trouver le moyen de franchir ce détroit, en compagnie de deux compagnons, un brahmine, donc un prêtre, qui s'appelle Oronieu, et une barde, une femme barde, une quarantaine d'années, qui s'appelle Sitandi. Et donc les voilà à dos de narval, comme on le voit sur cette couverture. Chevaucher les unicornes n'était pas qu'une partie de plaisir. Lorsque ces créatures se mouvaient lentement, en début de course, elles demeuraient en surface, l'échine droite. Leurs cavaliers gardaient le ventre au sec. Mais sitôt qu'elles accéléraient, elles adoptaient la nage des dauphins, plonger la tête la première sous la houle en arrondissant le dos et disparaître au-dedans, la queue levée au ciel, puis décrire un arc de cercle à l'air libre avant de plonger encore dans un cycle incessant. Leth et ses compagnons se retrouvaient donc la moitié du temps sous l'eau glacée. Ils n'eurent d'autre choix que d'apprendre à respirer entre chaque immersion. Oronieu, le brahmine, avait pour lui ses maîtrises de brahmine. Il n'eut pas trop de mal à trouver son souffle. Sitandi éprouvait plus de difficultés à s'accoutumer à ces grandes claques froides qui la suffoquaient une fois sur deux. Quant au roi Leth, c'est à peine s'il paraissait s'en ressentir. L'océan était devenu son élément. Il se livrait à lui avec une joie furieuse. Fixé sur le flanc de son narval, sa lance de bronze empalait les vagues. Par chance, un bel été indien réchauffait l'atmosphère, si bien que les vêtements des trois voyageurs séchaient rapidement sitôt qu'ils s'offraient une pause sur le rivage. Le soir venu, un modeste feu de camp et quelques magies de brahmine suffisaient à tenir les frissons à distance de leur chair. Le poisson pêché apaisait les ventres et les chants de Sitandi réconfortaient les cœurs avant qu'elles-mêmes sombrent dans le sommeil, harassées par les fatigues de la journée. Oronieu demeurait éveillé un moment à écouter battre le ressac. Il guettait le clapotis des unicornes qui s'ébattaient non loin d'eux. Le second jour de chevauchée, un long chapelet d'îles noires s'offrit à leur regard, étiré vers le septentrion. L'île dévassée n'était encore qu'une grande bande floue perdue dans les nébulosités à l'arrière-plan. C'est l'île qu'ils visent. Ces rochers proches paraissaient bien plus tangibles, fichés en mer comme les crocs d'un gigantesque dragon endormi. Plusieurs d'entre eux fumaient. L'un des plus lointains brûlait. Une mélasse d'or écarlate s'épandait en rivière lascive sur ses flancs de basalte. Il planait aux alentours une odeur de soufre. Par endroits, on voyait bouillonner les eaux sans qu'elles s'échauffent pour autant. Les humeurs secrètes de l'océan remontaient à la surface sous forme de bulles pour se perdre, invisibles, dans le monde aérien. Pour un peu, on les aurait entendus siffler. « Alors c'est ici que commence l'au-delà, » grelotta Sitandi, impressionné. « Ces dents de roc marquent la frontière, et Vassé a toujours été de l'autre côté. En quel domaine prétends-tu conduire ton peuple, roi ? Ne nous mène pas parmi les morts. » « Tu te trompes de péril, chante Frousse, » rétorqua Leth. « À l'est des archipels basaltiques, c'est encore notre monde, je t'en fais le serment. Une bonne terre pour les vivants, solide et fertile. Mais tu as raison quand tu dis que nous sommes sur une frontière. Sous ces eaux se cache le pays du dessous, avec ses lacs de flammes et ses fumeurs noires. Ces îles n'en sont que les excroissances. Nous flottons en surplomb de mystères dangereux, les gueules noyées du séjour souterrain. Heureusement, 2000 pieds liquides nous en séparent. Même les unicornes ne plongent pas si bas. Oronieu hocha la tête et traça dans l'air plusieurs runes d'astres pour se concilier la protection des cieux. Ils se mirent à louvoyer entre les îles, guidés par l'instinct de narval. Un peu plus loin, la mer était couverte d'une vaste nappe gris-beige à la consistance indéfinissable. Leurs montures ralentirent l'allure pour l'aborder, incertain de sa nature. C'était granuleux, léger. On aurait dit des millions de conques ballottant dans la houle. Ce n'est qu'en y pénétrant qu'ils comprirent ce que c'était. Des petits galets de pierre ponce, flottant à perte de vue. Cela roulait contre les flancs des unicornes, frôlait les cuisses des cavaliers sans leur faire de mal. Un grésil presque agréable. Oronueux empêcha l'un ou l'autre et les trouva tièdes. Il en déduisit qu'ils avaient connu le brasier très peu de temps auparavant. Les relents sulfurés étaient plus forts qu'ailleurs, au point que respirer devenait pénible. Ces menus pierrailles remontent des bas-fonds, grommela le roi. Du feu transmué en roc. Les seigneurs sous l'océan sont agités. Ils éructent leurs courroux. Mieux vaudrait ne pas s'attarder. Quelque chose de plus gros pourrait surgir dans la foulée. Ses compagnons ne firent pas de commentaires. L'atmosphère empuantie les dissuadait de parler. Ils priaient pour que les tensions secrètes demeurent tapies sous l'écume sans remonter au grand jour. Un peu plus loin, le regard de Sitandi fut attiré par un îlot étiré, à 2000 sur leur flanc droit. Au-dessus de ces crêtes tournoyaient des nuées de grands oiseaux blancs. Quels sont ces volatiles ? Interrogea la femme barde. Des cormorans ?
Ce sont des pétrels, corrigea Oronueux, charognards des mers nordiques. Il doit y avoir quelque chose là-dessous qui attise leur appétit.
Levant les yeux vers cette nuée, Lett l'étudia un instant. Puis il se pencha en avant pour frotter sa corne contre celle de sa monture en un bref conciliabule. Lorsqu'il se redressa, sa mine était martiale.
Spéciale dédicace à Lionel Davoust.
Des baleines tueuses, tapies derrière l'île. Les pétrels les accompagnent pour se nourrir des reliefs de leur chasse. Et comme le petit brahmine ouvrait la bouche pour le questionner, elles sont friandes de chair d'unicorne. Prions pour que la caillasse flottante les dissuade de nous poursuivre. Les narvals pressèrent l'allure tout en prenant soin de ne pas éveiller de remous. Au bout d'un long moment, l'air redevint plus respirable. Puis la nappe de pierre ponce s'ouvrit et la mer recouvra tous ses droits. Le roi Lett avait en main sa lance. Il se tenait prêt à darder sur son flanc au cas où un aileron suspect pointerait entre les vaguelettes. Ses compagnons marmonnèrent leur charme de brahmine pour invoquer les chevaux d'embrun et s'en faire une escorte. Ils trouvèrent ces grands esprits des eaux particulièrement indociles, agités par les humeurs coléreuses qui remontaient depuis le pays du dessous. Mais comme ils n'avaient guère d'autres alliés pour se protéger des prédateurs marins, ils décidèrent de les conserver tout de même à leur service. Par moments, on devinait leurs crinières d'écume qui dansaient au ras des vagues, piaffant et tempêtant pour manifester leur mécontentement. Oronueux avait toutes les peines du monde à les contrôler. Par bonheur, les baleines tueuses ne se montrèrent pas. En fin de journée, les narvals obliquèrent vers une petite île d'un noir de charbon, couronnée d'un pic vertigineux.
« Nous y voici, déclara le roi, l'île des 7000 jours. »
Elle a surgi des flots il y a près de 19 ans, dans un déluge de feu et de fumée. Nul ne sait si elle est destinée à demeurer, ou si la mer ravalera un jour cette offrande. C'est ici que réside Morcane, la sorcière du matin.
« La mer des Brahmines, » murmura Oronueux, la mine grave. « On l'a dit plus ancienne que les plus anciens de nos champs.
Sa sagesse est immense, mais ses menées sont obscures. Méfie-toi d'elle, roi. » Car bien qu'elle soit de notre caste, j'ignore si elle appartient vraiment au genre humain. Plus l'île approchait, et plus elle prenait des allures de forteresse.
Donc il ne s'agit pas de l'île qu'ils veulent coloniser, mais c'est bien la sorcière que le roi veut rencontrer.
Une montagne plantée dans la mer, noyée dans un contre-jour doré, nébuleux de poussières en suspens. Son rivage lui-même était barré par une falaise haute de 7 ou 8 coudées. Un étroit chenal perçait ce rempart basaltique. Les unicornes s'y engagèrent avec prudence en s'écorchant le ventre contre le fond râpeux. Au-delà s'étendait un vaste bassin turquoise enchâssé dans un roc insulaire. Voyant qu'il avait pied, le roi démonta. L'eau tiédasse lui arrivait au milieu du torse. Le sol sous ses bottes, constellé de coquillages, s'élevait en pente douce vers la grève. Laissant les narvals barboter à l'entrée du bassin, il mena ses deux compagnons de voyage vers la terre ferme, taillant leur route dans le flux. Lorsqu'ils posèrent le pied au sec, la solitude du lieu s'imposa à eux comme une évidence. Le massif les dominait de toute sa hauteur, impressionnant mur d'ombre érigé dans le nimbe aveuglant du soleil couchant. Impossible de le contourner ou de le gravir, la bande étroite sur laquelle il se trouvait était la seule part habitable de l'île. Une plage désolée, vierge de toute présence, dépourvue de tout, même des habituels oiseaux de mer. Le roi est là, à plusieurs reprises. Personne ne répondit à son appel. Le silence était écrasant. Puis, quelque chose s'anima. Avec une grâce nonchalante, un tourbillon de poussière sombre descendit du rocher. Gracile colonne, dont l'extrémité se perdait dans les nuées, une corde tendue entre terre et ciel. Cela se mit à balayer la grève sans faire le moindre bruit, en décrivant un lent arc de cercle. Le roi reconnut la matière dont c'était fait, de la cendre. Une brise légère se leva. Le phénomène changea brusquement de direction pour se déporter vers le large, par saute plus rapide. Quelques instants plus tard, il débordait la falaise et s'en allait glisser au-dessus des vagues, plein ouest, en direction du continent. Les compagnons le regardèrent s'éloigner jusqu'à ce qu'il devienne trop ténu pour être encore perceptible. Il leur en resta un sentiment inexplicable de nostalgie. C'est alors que le soleil se voila et que le massif acquit une texture. Libéré du contre-jour, ses reliefs s'offrirent au regard avec plus de clarté. Les voyageurs en demeurèrent bouche bée. La montagne était couverte d'urnes. On en trouvait à toutes les hauteurs, couchées dans les anfractuosités du roc, dressées sur les saillies et les corniches. Des centaines, des milliers de réceptacles funéraires en terre cuite, fumant des cendres qu'ils contenaient, soulevées par la brise. « C'est une nécropole, » murmura Sitandi, « la plus vaste que j'ai jamais contemplée. » « Et pas sans gardien, » gronda le roi, portant la main à ses chakras. « Prenez garde. » Chakras sont bien des armes ici, des disques acérés. Dans les plis du rocher, des choses sombres remuaient mollement. Vautrés dans des niches, à différentes hauteurs, 9 grands chacals ailés toisaient les visiteurs de leurs yeux d'ambre. Plongés dans une sorte de torpeur vigilante, ils ne donnaient pas signe de vouloir bouger. On pouvait voir leurs maigres poitrines s'enfler au rythme de leurs interminables inspirations, tandis que frémissaient leurs plumes délabrées. Mais jamais leur souffle ne ressortait. Tout au plus percevait-on ce moment furtif où ils cessaient d'inhaler le temps de 3 battements de cœur, avant de recommencer à aspirer le monde autour d'eux avec une lente avidité. Sitandi frissonna. « Je ne suis pas sûr que ce soit des gardiens, » gémit-elle. « C'est bête, il y a de l'appétit en elles. » À nouveau, un tourbillon cendreux descendit de la montagne. Leth nota que dans son périple, il demeurait à distance respectable des créatures, quitte à se dérouter pour ne pas leur passer sous les crocs. Il atteignit la grève et se dirigea vers les compagnons, glissant au sol à vitesse modérée. Le roi fit un pas de côté, mais Sitandi n'esquissa pas un geste pour l'éviter. Pas même lorsque cette chose vaporeuse ralentit pour la frôler au passage. Dans son vrombissement léger, la barde crut percevoir comme un chuchotis. Elle demeura un instant attentive, le bout de ses cheveux frémissant de ce souffle étranger. Puis la colonne grise la dépassa, reprit de la vitesse et migra vers le rivage pour se perdre à son tour dans l'océan. Sitandi restait silencieuse, étrangement émue. Elles sont encore pleines, énonça Oronieux à voix basse. Les urnes, ou du moins une grande partie d'entre elles. Ces cendres n'ont pas été dispersées comme elles l'auraient dû. Le roi hocha la tête. Alors ces tourbillons, ce sont... Des âmes perdues, oui, attardées en ce monde, privées de sacrements. Ils baissèrent le front, troublés. Le regard des chacals pesait sur leurs épaules comme le jugement des astres néfastes. Leth aurait voulu que leur thorax cesse de se dilater à l'infini, alors que leur taille apparente demeurait la même, contre toute logique. Il en éprouvait une sensation de malaise inexprimable. À l'autre bout de la plage s'éleva une mélodie lugubre, nimbée d'un souffle. Leth se retourna dans sa direction, sa lance bien campée dans les mains. Une grande femme maigre s'avançait à leur rencontre, une triple flûte aux lèvres. Un chignon de bramine retenait son ample chevelure noire. Il laissait filer de longues mèches tumultueuses qui ruisselaient sur ses épaules et ses hanches. C'était bien la seule vêture qu'elle portait. En dehors d'elle, sa peau était entièrement nue, pâle et lisse comme de la cire. L'apparition marchait d'un pas tranquille. Ses doigts effilés couraient sur ses chalumeaux de son instrument tels les pattes d'un faucheux. Des volutes de cendres s'échappaient des flottements de sa tignasse, serpents noirs transmués en fumée. Parvenue à proximité du roi, la femme s'arrêta, releva le menton pour mieux se révéler. Visage jeune mais osseux, taillé en diamant avec des pommettes saillantes et un front anormalement haut. Sur ce dernier figuraient les deux cornes blanches renversées. Le grand Narvin braminique peint avec un pigment ocre.
Qui s'attarde sur le rivage éphémère sans qu'il arrivante? Qui foule le présent de la mer?
Sa voix était grave et rauque, et pourtant dotée d'un charme irrésistible, une sorte de ronronnement. Le monarque inclina sa corne en salut.
Je suis Let, roi des Firwan. « Descendant de Wané, Fide, je sais qui tu es, » le coupa-t-elle doucement. « Tu es le roi cornu. »
Elle esquissa un sourire narquois.
« Qui donc t'a appris à prendre la parole avant tes bramines? Est-ce là la coutume du sixième peuple ?»«
C'est vrai, » s'excusa humblement le roi. « Je manque aux usages. » Et il fit un pas en arrière pour laisser Oronueux s'avancer. Ce dernier baissa le front, impressionné.
« Je suis Oronueux. » Fils d'Aïneux, hésita-t-il, Vedaï et Onomaï. Béni soit ton nom, Shri Morkan. Il est le premier que l'on enseigne aux novices lorsque nous évoquons les pères et mères de notre caste.
La sorcière inclina la tête sur le côté pour le lorgner sans vergogne. Dans ses petits yeux obliques, une lueur de malice s'était allumée.
Je te connais aussi, Oronueux, fils d'Aïneux. Je ne te souhaite pas la bienvenue. Avant que le soleil se couche, tu m'auras offensé gravement.